Nous voulons des cantines bio avec Stéphane Vera.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis assez content d'être là. Et puis alors, ce qui est étonnant, c'est que je retrouve Marinette Feuillade. Professionnellement, on s'est croisés il y a une dizaine d'années, peut-être même plus, puisqu'elle avait la charge de la coordination de la bio en Rhône-Alpes. Et on a eu une collaboration pendant quelques années. Donc moi, je m'appelle Stéphane Vera. J'ai le même nom que le cuisinier avec le chapeau. Mais il n'est pas de ma famille encore. Je dirige une association nationale qui s'appelle Un Plus Bio, dont le siège social est pas très loin de chez vous, et dans le Gard, à Nîmes. J'ai une cinquantaine d'années, 53 cette année, j'ai deux enfants. J'ai un parcours en agriculture. Je suis fils d'agriculteur, j'ai été aide familial jusqu'à 20 ans. J'ai fait des études en agriculture, j'ai repris mes études plus tard aussi. Et j'ai eu, dans mon parcours professionnel, à travailler très tôt dans l'accompagnement de l'agriculture biologique. Et j'ai été technicien bio, agent de développement, pour me consacrer depuis les années 2000 au sujet dont je veux vous parler, qui est celui des cantines. Et en fait, je suis arrivé aux cantines par une porte tout à fait naturelle. J'accompagnais les agriculteurs dans le département du Gard qui voulaient mettre en cohérence la bio avec leur territoire et trouver un peu aberrant de produire des aliments bio pour simplement l'Europe du Nord. Et une des façons de trouver une illustration concrète, c'était de se dire, en fait, nous, agriculteurs, on a tous des enfants qui vont à l'école, et est-ce qu'il ne serait pas possible de retrouver la bio dans les cantines? Donc, de cette idée un peu naïve des années 90, il faut que vous resituiez quand même la période, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la bio. Dans les années 90, on était vraiment dans une période de démonstration que la bio existait, qu'elle était possible, et pas du tout comme aujourd'hui où on a beaucoup plus de disponibilité de produits ou d'offres en tant que consommateur. Donc j'ai eu la chance d'accompagner ce collectif d'agriculteurs, et dans les années 2000, le dispositif était tellement intéressant pour beaucoup de gens qu'on a créé une association qui s'appelle Un Plus Bio, qui regroupait tous les acteurs de la restauration collective, donc du cuisinier, bien entendu, de l'agriculteur, voilà. Et on a eu une dizaine d'années d'essaimage de l'expérience, notamment en Rhône-Alpes, mais aussi dans tout le Sud. Et en fait, on s'est aperçu que cette histoire d'agriculture biologique et de bio dans les cantines avait tout un point commun, c'était une volonté politique. C'est-à-dire, tous les endroits où il restait quelque chose de périn, tous les endroits où il y avait quelque chose qui pouvait prendre de la durée, c'était parce qu'il y avait une volonté politique. Et cette volonté politique, ça ne veut pas dire que des hommes politiques ou des femmes politiques qui le portent. Ça peut être des citoyens qui réussissent justement à faire aboutir leurs convictions, leur envie, qu'il se passe quelque chose de différent au niveau de l'assiette de leurs enfants ou de leurs grands-parents. Et cette volonté politique, on s'est dit, en fait, tout simplement, nous, association nationale, ce serait important que les élus aient la possibilité de se retrouver au sein d'un réseau, et on appelait ça le Club des territoires Un Plus Bio. Donc en 2013, on a créé ce réseau du club avec une vingtaine de villes de territoire. Alors on avait les villes, peut-être certaines, si vous vous penchez sur le sujet, vous connaissez Barjac, peut-être. Qui a été le lieu de tournage d'un film « Nos enfants nous accuseront », qui est passé au bio dans les années 2005. Il y a la ville de Montsartou, qui est plus connue peut-être un peu aujourd'hui, qui a fait une régie agricole dans le sud de la France. On avait la ville d'Uggersheim, en Alsace, qui est une ville en transition, aussi bien sur l'énergie que l'alimentation. On avait des villes dans le nord comme Los Angeles et Grande-Synthe qui sont aussi illustrées par des projets assez forts. Donc ces villes, on va dire un peu volontaristes, pionnières, elles, il n'y avait pas de difficulté à les ramener vers ce club. Par contre, ce qui a été le plus intéressant après, c'est de permettre à ce que d'autres territoires, d'autres villes rejoignent le club. Voilà. Donc le travail d'Un Plus Bio a été de faire grossir ce club. Et puis de commencer aussi à apporter des enseignements et des outils. Alors vous vous dites, si on veut une cantine bio, comment on s'y prend? aujourd'hui. Et est-ce que cette histoire de mettre des cantines bio, c'est une possibilité pour tout le monde ou réservée à quelques villes ou quelques collectifs? Alors, il faut savoir déjà qu'un des paradoxes aujourd'hui dans l'alimentation et dans nos cantines, c'est que pendant des années, on a surtout renforcé la qualité hygiénique de l'alimentation et que tous les efforts ont porté grosso modo sur faire que les cantines n'intoxiquent pas les convives, pour vous faire court. Et on s'est peu préoccupé de ce que l'on mettait dans l'assiette. Et ça, même jusqu'aux années 2005. Sauf pour les quelques pionniers qui, eux, donnaient une importance. Et puis après, on s'est aperçu que mal faire à manger, ça commençait à coûter cher. Ça commençait à coûter cher parce que ça soutient une agriculture qui n'est pas tellement durable. Ça produit une alimentation dans l'assiette qui n'est pas toujours consommée. Et derrière, on a vu arriver, en dehors des grandes crises alimentaires, le détournement de ce qui était proposé aux enfants. Et les enfants ne mangeaient pas. Et en fait, c'est là aussi où, si on est sincère, ça a commencé à changer. C'est qu'ils se sont tellement bien débrouillés à faire mal que c'était plus du tout mangeable et que des élus, des collectifs ont commencé à bouger pour dire « mais ça, vraiment, c'est plus possible, on ne va pas le supporter ». Et dans les années, du coup, 2015, on a fait un manifeste « Quand les cantines se rebellent », où on a recueilli, d'ailleurs c'est un ouvrage que vous retrouvez toujours chez un autre éditeur, pas chez Terre Vivante, que j'ai coécrit avec mon ami Julien Claudel, qui est aussi l'auteur de l'ouvrage avec moi sur « On veut manger comme à la cantine bio ». On a commencé en 2015 avec ce manifeste à porter à connaissance de tout un chacun qu'il y avait des gens aujourd'hui qui galopaient, qui faisaient des choses super intéressantes et que du coup, oui, les cantines bio étaient envisageables dans bon nombre d'endroits en France. Et ce manifeste nous a permis de lancer l'idée. On fait une fête chaque année qui s'appelle les Victoires des cantines rebelles. Donc vous avez les Victoires de la musique, vous avez les Césars ce soir. Nous, on a nos Victoires des cantines rebelles où depuis 3 ans, de sur la 4e année, on remet des trophées à des gens qui font des choses exemplaires. Et pour nous, les choses exemplaires, ce n'est pas uniquement mettre du bio. C'est aussi, par exemple, proposer une restauration collective là où il n'y en a plus. Et on a remis, par exemple, cette année, une victoire à un collectif de parents en Ariège qui, dans un restaurant de village, a recréé une cantine pour 20 enfants. Et on a remis cette victoire à ces gens-là parce qu'on trouvait que c'était exemplaire qu'en milieu rural, dans les endroits pas possibles, on envisage de se nourrir aussi collectivement. Parce que pour nous, derrière la cantine et derrière le bio, il y a le partage. Le partage du repas, il y a l'échange, c'est-à-dire c'est important de pouvoir échanger ce que l'on mange. Et derrière aussi, il y a l'éducation. Et notamment l'éducation au niveau du plus jeune âge. Et en 2015, les victoires des cantines rebelles nous ont montré qu'il y avait aussi une attente à partager autour de ces cantines. Et c'est là qu'on a eu un échange avec une édition, une maison d'édition que vous connaissez peut-être assez bien parce qu'elle est de votre région, qui sont les éditions Terre Vivante, qui nous ont demandé si on ne voulait pas travailler sur un ouvrage de cantine et de recettes de cantine. Et nous, ce qu'on leur a dit, on veut bien travailler, mais on va s'appuyer sur ce réseau de cantines rebelles. Et on a capitalisé dans l'ouvrage 48 recettes de saison qui ont toute la même dynamique, c'est-à-dire d'être réalisées au quotidien par des chefs de restauration collective, des gens de tous les jours. Et que ce soit des recettes, on a essayé de mélanger des recettes qui correspondent aux valeurs de l'association 1 plus bio, c'est-à-dire de la bio pour tous, c'est-à-dire la santé par l'assiette, c'est-à-dire ce que l'on mange a des vertus pour notre santé, une dimension de commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire de véritable relocalisation des achats. Et le troisième point, c'est qu'il y ait une relocalisation aussi du dialogue entre, nous on n'appelle plus ça le convive ou le consommateur, on appelle ça le mangeur. C'est-à-dire qu'au niveau d'un plus bio, notre évolution a été de constater que, en fait, on n'est pas simplement des consommateurs ou des utilisateurs de restauration ou de cantine, nous mangeons. Et nous mangeons avec toutes les dimensions de l'acte de manger, c'est-à-dire nous mangeons en conscience, nous mangeons en soutenant un type d'agriculture ou de transformateur, nous mangeons en faisant attention aussi à la relation au monde, et notamment en évitant de soutenir des aberrations d'un système alimentaire. Et quand vous regardez aujourd'hui pourquoi nous voulons des cantines bio, si possible en bio, mais on va dire des cantines qui surtout fassent du bon, du saison, du frais et du maison, c'est parce que si vous voulez concrètement aujourd'hui, là où vous habitez, faire bouger les choses en tant qu'individu, c'est dans ce lieu collectif que ça se passe. Parce que quand vous êtes jeune citoyen, jeune parent, si vous avez décidé de faire des enfants, c'est de la crèche au primaire, au collège, au lycée que vous allez être confronté à cette histoire-là. Lorsque vous êtes actif, salarié, c'est peut-être l'endroit où vous mangez à midi. Et c'est justement dans ce quotidien que vous pouvez, je dirais, sauver un peu votre peau ou pas, et sauver celle des autres. Et l'autre élément, et qui est peut-être aussi une préoccupation lointaine pour certains d'entre vous, mais qui, dans vos moments de vie, va vous rapprocher, c'est celui de la vieillesse. Et en fait, nous avons une société qui va être confrontée à un vieillissement de sa population, avec derrière un maintien en activité et en vie, en meilleure santé, si on le souhaite, mais un passage de plus en plus dans des espaces de vie collectifs, ce qu'on appelle les EHPAD. Ces EHPAD ou ces maisons pour personnes âgées, la nourriture n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un parcours de vie où on a fait attention toute sa vie à faire des choses intelligentes, à faire des achats, à cuisiner. Et lorsqu'on est dépendant, on se retrouve tributaire en fait, d'un système qui ne respecte plus ce droit essentiel qui va être de manger quelque chose de bon, de manger quelque chose qui correspond à ses besoins et qui maintient le plaisir. Voilà. Donc l'histoire de « Oui, je veux des cantines », c'est un peu pour toutes ces dimensions. Alors, l'association que je dirige, on est une petite équipe, on est trois. Donc, à trois, même si on a de grandes ambitions, on ne peut pas couvrir tous les besoins. Donc, vous regarderez si ça vous intéresse. On a un site internet qui est un des moyens aujourd'hui inévitables pour faire passer ces idées, ces outils, où vous trouverez des informations très pratiques. Vous trouverez la possibilité aussi de vous abonner à une lettre électronique qui paraît tous les mois, qui vous donne un point de rendez-vous sur les grands sujets. Et si vous regardez peut-être un peu dans les médias, on a eu les états généraux de l'alimentation. Et ces états généraux de l'alimentation, par exemple, sont en train de produire une loi sur l'alimentation, qui s'appelle la loi Egalim, qui va contractualiser un peu des changements. Et pour les cantines, le changement, il est intéressant. Et c'est celui qu'il faut qu'on soutienne, c'est on va demander à ce que les gens appliquent dans les services publics 20% de bio dans les cantines, 50% au moins de produits de qualité. Et là, on se bataille pour que concrètement, on amène des choses opérationnelles de qualité. Des invitations à mettre des menus végétariens avec beaucoup plus de fréquence. Et alors là, nous, à Un Plus Bio, ça nous intéresse fortement parce que une des équations à résoudre, comment on fait pour mieux manger sans dépenser plus, vous avez peut-être trouvé les astuces en tant qu'individu, mais au niveau de la restauration collective, pour avec la même somme d'argent, le même personnel, les mêmes équipements, arriver à transformer sa cantine, ça demande d'agir sur plusieurs leviers. Et il y a un des leviers majeurs, c'est celui du gaspillage alimentaire. Le deuxième levier majeur, c'est celui de la protéine. C'est-à-dire que, comme dans la plupart de la société française, on consomme trop de protéines animales, et les cantines font partie du lieu où on mange tous les jours de la protéine animale. Et malheureusement, de la mauvaise protéine animale. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus, facile, pas cher, pas toujours les super morceaux, souvent transformés, voire ultra transformés. Et du coup, le collectif du Club des Territoires milite pour dire, en fait, quand on regarde aujourd'hui les goûts, les changements de la population, est-ce qu'on ne pourrait pas se proposer plus régulièrement moins de viande, voire de l'enlever de certains menus, et de remplacer par quelque chose qui va faire du bien à tout le monde, à l'agriculture, aux cuisiniers, de changer un peu les classiques menus viande accompagnement, avec des plats qu'on va appeler populaires, festifs, complets, mais qui détiennent tous l'originalité et qui détiennent tous la possibilité aussi d'être abordables. Et vous retrouverez en fait, si certains veulent feuilleter tout à l'heure, dans l'ouvrage ce type de plat. Donc ça va être pour ceux qui connaissent l'Aveyron, ils ont une spécialité, c'est le farsou. Et le farsou, c'est du végétal avec de la viande. Et là, par exemple, le chef de Mio, il a fait un farsou végétal. Il a gardé la partie blette, les côtes de blette, et il a remplacé la viande de cochon par des lentilles. Et ça fait un produit super intéressant. Visuellement, vous regarderez dans la recette, c'est top. Il en fait une déclinaison aussi sur un fast-food, un hamburger végétal. Et c'est un produit qui sert aux enfants. On en a d'autres qui font des plats de lasagne où la viande a complètement disparu et on met des fois même pas de substitut type protéines végétales, soja ou autre. Ils assument le fait de mettre simplement de la légumineuse simple avec des légumes, des pâtes. Et en fait, on sensibilise les acteurs de la restauration collective et les décideurs à ce que l'équilibre alimentaire, il se fait sur une semaine, il ne se fait plus du tout sur le repas. Et que surtout, et ça je pense que vous allez le partager, quand vous savez que un tiers du repas aujourd'hui est jeté en restauration scolaire, c'est-à-dire ce que vous payez, il y en a un tiers qui perd à la poubelle, vous voyez que grosso modo, on peut s'inviter à mettre du végétal sans souci, surtout s'il est consommé. Parce que grosso modo, l'équilibre alimentaire dans les cantines aujourd'hui n'est simplement pas respecté. Les menus sont certes équilibrés, mais parce que ce n'est pas consommé ou jeté par les enfants, derrière, ils n'ont pas l'essentiel. Et la finalité quand même d'un repas, d'une part, et ça, on l'amène au niveau des collectivités, c'est de dire, quand on voit l'énergie que met aujourd'hui le monde paysan pour produire un aliment de qualité, quand on voit l'énergie que va mettre une équipe de cuisine pour préparer ce repas, quand on voit l'énergie que va mettre une équipe de salle d'accueillir les enfants, d'éduquer lorsqu'on a des projets éducatifs à table pour qu'ils goûtent tout, on trouve un peu dommage de ne pas avoir derrière un résultat, notamment une qualité. Alors derrière tout ça, je regarde un peu l'heure, il me reste 10 petites minutes, derrière tout ça je vais vous donner quand même quelques repères. Donc si vous allez sur notre site, vous pouvez télécharger, il y a un guide de parents qui est gratuit, ça s'appelle le guide Manger Bio, il y a une vingtaine de pages, c'est très ludique, c'est pas du tout un truc indigeste, où on vous donne les grands repères de comment fonctionne la restauration collective et comment vous, en tant que parent, vous pouvez vous positionner de façon stratégique et tactique auprès de vos élus pour éviter tous les écueils du parent, certes sensibilisé, informé, mais qui, par maladresse, va bloquer un peu la relation et le dialogue. La deuxième chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les cantines, tout va dépendre du mode d'organisation. Vous avez grosso modo deux grands modes d'organisation. Vous avez ce qu'on appelle la liaison chaude et la liaison froide. Alors derrière ce terme-là, il y a un truc très simple. Liaison chaude, c'est on fabrique le repas le matin, il est maintenu à température et il est servi le jour même à température. Et la liaison froide, c'est un principe qui existe depuis une trentaine d'années. On va produire la veille, voire deux jours avant, votre repas. On va le descendre à 2 degrés. On va le garder à 2 degrés. Et deux heures avant le repas maximum, on va le remettre en température, ce qu'on appelle remise en température. Et on va le remonter à 65-67 degrés. Ces deux modes-là permettent de faire de l'alimentation de qualité. Il vaut mieux avoir une liaison chaude à mes yeux que la liaison froide. Après, où ça se corse, c'est que, vous l'avez vu, pour les modes de consommation avec les supermarchés, qui sont devenus de plus en plus gros, eh bien, les cantines, les cuisines des cantines sont devenues de plus en plus grosses. Et vous avez aujourd'hui des unités de production qui, dans les grandes villes, dépassent les 30 000 repas par jour. Voilà. Donc vous prenez ville de Toulouse, c'est 32 000. Alors c'est intéressant parce que la ville de Toulouse est au club des territoires chez nous. Et malgré les 32 000 repas jour et les défauts qu'il y a, c'est une ville très volontariste qui aujourd'hui fait 27 % de bio, sans faire payer plus cher aux parents. Donc on voit que quand même, même à grande échelle, il y a aujourd'hui des possibilités. L'autre élément à savoir, c'est qu'au niveau d'un repas, et j'ai amené quelques petites brochures sur un observatoire qu'on a créé depuis 2 ans. Il faut que vous sachiez qu'un repas en primaire coûte à peu près 8 euros. 8 à 10 euros à la collectivité. Par contre, est-ce que vous savez combien vous payez en tant que parent le repas ? Ou en restauration d'entreprise ? Les parents vous payent 6 euros. Vous êtes dans le privé, vous. Ouais. Et je pense que c'est très cher, effectivement. C'est très cher. Parce que souvent, en fait, c'est lorsqu'on est dans le privé que les sociétés de restauration, elles font payer les écoles, etc. En fait, effectivement, sur un court repas de 8 à 10 euros, les parents peuvent aller jusqu'à 6-7 euros. Mais la plupart du temps, dans les villes, les parents payent entre 2,50 euros et 4 euros le repas. Et il faut savoir que sur ces 8 à 10 euros, seulement 20 à 25% du prix va à l'achat alimentaire. Et en fait, donc, si vous faites le calcul, c'est que grosso modo, vous avez 2 euros d'aliments qui est acheté pour fabriquer le repas. Tout le reste, c'est du personnel à 60%. Ça va être le matériel, les fluides, mais pas du tout le produit lui-même. Et pour nous, un plus bio, c'est là qu'il y a à un moment donné peut-être une erreur de nos décideurs, c'est de ne regarder que le curseur du prix des denrées et de n'imaginer de faire des économies que sur ce secteur-là. Et nous, nous véhiculons donc avec l'Observatoire que il faut que les collectivités, elles travaillent sur le grand chantier du gaspillage, c'est-à-dire pas arriver à zéro, mais pas loin. Et c'est là que la plupart des villes gagnent leur vie. Parce qu'il faut savoir qu'une ville qui travaille sur le gaspillage et qui passe de 150 grammes à 30 grammes, elle récupère par repas 20 à 30 centimes d'euros. Vous m'entendez ? Simplement, en travaillant sur le gaspillage alimentaire, il récupère 20 à 30 centimes d'euros. Si là-dessus, ils arrivent justement à avoir une équipe de restauration qui est capable de travailler les produits bruts, c'est-à-dire d'avoir une légumerie, d'acheter des produits à proximité, etc., elle va là aussi gagner autour de 30 centimes d'euros. Donc, rien qu'en agissant sur ces deux leviers, qui sont le gaspillage et la dynamique de l'équipe de restauration avec l'achat de proximité, vous voyez que vous dégagez une marge financière à réinjecter sur l'achat des produits. Derrière ce raisonnement économique, je terminerai que l'enjeu pour nous tous sur les cantines, il va au-delà de notre histoire de repas. Il est sur le fait que notre alimentation en restauration, elle est basée sur des produits de l'industrie et des produits de l'importation. Que ces produits, non seulement viennent de très loin, mais ils sont de façon inégalitaire par rapport aux relations commerciales avec les autres pays, voire avec les autres producteurs. Le deuxième écueil qui, là aussi, est à changer, c'est qu'en termes de santé, il y a énormément d'éléments aujourd'hui qui montrent que c'est par l'alimentation que l'on peut corriger, justement, son bénéfice santé. Et il y a une étude nationale avec une cohorte assez importante qui s'appelle Nutrinet, qui a, voilà, 6 mois, extrait justement une partie de la population qui mangeait selon les principes de la bio, c'est-à-dire beaucoup plus de végétal, beaucoup plus de saison et puis sans résidus. Et que cette population, vous le regarderez de plus près parce que je ne suis pas un spécialiste nutritionnel, mais certains cancers diminuaient de 30%. Rien que sur l'effet de ce mode de régime alimentaire, sans parler de végétarien. Du coup, on ne peut plus ignorer que notre aliment a un effet quasiment immédiat sur notre santé. Et le dernier point qui est hyper préoccupant, et ce matin quand j'ai pris les transports en commun pour venir vous voir, puisque j'arrive, même si je prends le train et le bus, ben, j'écoute un peu à la radio. Il y avait un petit reportage, et cette semaine, je suppose, entendu cette jeune fille qui a 15 ans, qui est près d'Agen, qui a monté une cagnotte pour ses parents, qui sont en très grande difficulté, qui sont des agriculteurs, et qui, par, je dirais, la mauvaise chance, même si chacun détient une responsabilité dans son parcours de vie, la mauvaise chance, c'est que c'est des gens qui, pourtant, sont en circuit court, avec de l'élevage, de volailles, de qualité, donc tout ce qu'on aimerait, on peut voir dans nos territoires. Malgré cette conversion de ces gens vers de la bonne nourriture, ben, ils ont subi la crise de l'aviculture. Ils avaient fait de lourds investissements et ils se retrouvent endettés au bord de la faillite. Et cette jeune fille, au moment où s'ouvre le salon de l'agriculture, lance un grand cri, un appel en disant « Sauvez mes parents ». Et je pense que le plus grand soutien par rapport aux cantines, c'est de venir justement en soutien avec ce monde agricole et paysan qui, plus que jamais, a besoin de gestes concrets. Et un des gestes concrets, c'est sur la juste rémunération, la juste reconnaissance de la qualité pour ceux qui font de la qualité du travail. Voilà. Et franchement, je terminerai pour vous donner quelques ordres d'idées sur le basculement des enjeux. Nous avons un plus bio, un département adhérent qui est les Pyrénées-Atlantiques. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Pau, Biarritz. Et puis après, vous avez le golfe de Gascogne. Donc, c'est des gens qui ont la chance d'avoir la mer, la montagne, qui ont énormément d'agriculture intensive aussi. Et ces gens-là, en 2011, se sont penchés pour essayer d'amener tous ces produits de qualité bio, locaux, label rouge, dans les assiettes des collégiens. Ils étaient à même pas 5% en 2011. Aujourd'hui, ils sont à 40% de produits bio et locaux, dont 19% de produits bio. Et surtout, on a fait le calcul parce qu'ils ont évalué la partie qui avait été relocalisée. Et sur un département comme les Pyrénées-Atlantiques, de 40 collèges, ils ont relocalisé par an 2,5 millions d'euros. Rien qu'un achat public, sans mettre de subventions supplémentaires, sans augmenter la part pour les parents, etc., ils ont réussi à relocaliser cet investissement. Et c'est des achats qui touchent aussi bien le monde agricole que tous les métiers de bouche, c'est-à-dire les bouchers, charcutiers, les boulangers. Et c'est là qu'on voit la véritable portée, la véritable vertu de cette transition alimentaire des cantines. Et j'en aurai fini pour mon intervention, qui est pile poil sur
Parfait.
Les 30 minutes.
Merci Stéphane. Voilà, donc c'était très clair et une bonne introduction à la discussion. Passe le micro, vous pouvez poser vos questions ou faire état de vos réflexions à Stéphane.
Merci, bonjour. Juste par rapport à la loi, enfin ce qui va apparaître dans la loi alimentation, vous avez dit 20% de produits bio. Je ne sais plus combien de pourcentage de produits de qualité.
50%.
50%, mais ça ne veut rien dire des produits de qualité. Est-ce qu'il y a des critères de définis et qui les décide? Est-ce qu'ils vont être vraiment écrits? Et juste une question encore par rapport à la loi. Est-ce qu'il y a une incitation seulement ou une incitation et punition pour les repas végétariens? Est-ce qu'il y a une vraie contrainte ou c'est simplement faites ce que vous voulez, mais on vous conseille ça? Merci.
Alors, bravo d'avoir posé ces questions parce qu'elles sont, en plein dans le mille, en fait, sur les limites de la loi. Donc, vous savez qu'en France, on fait beaucoup de lois et on a du mal à les appliquer. Donc, là-dessus, on amène le même regard un peu que vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le décret. Donc, cette loi du 1er novembre, qui s'appelle la loi Egalim, elle prévoit que la restauration collective devra, d'ici 2022, avoir 50% de produits de qualité, et c'est pas encore défini, mais on sait ce qu'il y a un peu derrière. Ça va être les produits de l'agriculture haute valeur environnementale, donc de l'agriculture, on va dire, conventionnelle, avec moins de pesticides. Il va y avoir les signes officiels de qualité, c'est-à-dire les AOC, les AOP, les IGP, etc., les labels rouges. Et bien entendu, pour être la bio. Voilà. La bataille, elle va se mener au niveau d'une instance qui s'appelle le Conseil national de la restauration collective, qui a été une instance qui a été créée par l'État, qui s'est réunie la première fois il y a un petit mois, où on trouve le monde agricole, le monde de la restauration, et pour la première fois, les associations comme Un Plus Bio ou Fondation Nicolas Hulot, enfin pour le progrès de l'homme, où on commence un peu à peser en dissonance par rapport au poids lourd. Sur le menu végétarien, c'est une expérimentation, il n'y a pas d'obligation de résultat et il n'y a pas de sanction dans cette loi, puisque le législateur a bien entendu que, notamment les grands lobbyistes des pouvoirs publics, qui sont l'Association des maires de France, ne souhaitaient pas avoir de contraintes par rapport à cette loi. Par contre, ce que nous trouvons intéressant, c'est que pour la première fois, les gens qui voudront faire, ou vous, citoyens, vous pouvez vous appuyer sur le fait qu'il y a une loi qui tend vers cet objectif-là et qu'on ne peut plus l'ignorer. Et à nous, effectivement, de monter la demande, le curseur. Là où on est un peu plus confiant sur le végétarien, on a lancé un chantier l'année dernière qui s'appelle « Quand les cantines prennent de la graine ». Nous, on aime bien les trucs, les cantines rebelles, les cantines prennent de la graine, etc. Il y avait quelques temps, simplement, je dirais, une dizaine de collectivités qui menaient le menu alternatif. Aujourd'hui, on a des villes importantes qui mettent ça au quotidien. Vous avez la ville de Bègles, en périphérie de la région bordelaise, qui offre la possibilité aux enfants de manger bio et végétarien tous les jours. Vous avez d'autres villes qui font ça une à deux fois par semaine. Et ne le font pas que pour des raisons confessionnelles. Elles le font vraiment pour des questions d'attraction pour ces menus-là et puis d'enjeu environnemental. Et derrière, pour arriver aussi à la maîtrise de ses coûts, à cette agriculture vertueuse, etc. Et on s'aperçoit aussi que les gens qui mettent, et ça c'est dans l'Observatoire de la restauration collective, les gens qui mettent des menus végétariens sont ceux qui achètent le plus de viande bio et de viande locale. Donc en fait, mettre du végétal ne veut pas dire bannir la viande. Au contraire, c'est bannir la mauvaise viande, mais mettre celle qui nous intéresse quand on a envie de manger ce type de viande, c'est-à-dire de la viande de qualité, sans OGM, sans antibiotiques, sans pesticides.
Bonjour et merci pour cette présentation. Nous, avec ma collègue Aurélie, on vient d'une cantine d'une petite commune qui s'appelle Sourcieux-les-Mines dans les coteaux du Lyonnais, qui est autogérée parce que c'est une petite cantine. Et, la gestion a été récupérée par les parents il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Elle fait déjà des choses intéressantes, notamment une alimentation, un approvisionnement le plus bio et local possible. Mais avec Aurélie, on fait partie des parents d'élèves qui s'intéressent à aller encore et toujours plus loin. Concrètement, adhérer à l'association, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter en tant que cantine, en termes d'accompagnement, de réflexion, de mise en réseau, par exemple?
Alors, l'adhésion, en plus, elle est au niveau de l'association En Plus Bio, on a fait deux types d'adhésion. On a fait une adhésion pour les villes et les territoires, et on a fait une adhésion très abordable pour les cantines, qui est au l'ordre de 45 euros, je crois. Et sur votre question, sur quoi vous amène, déjà, c'est de la visibilité. Parce que quand on rentre dans un réseau qui s'occupe que de cette histoire alimentation, on fait caisse de résonance auprès des médias. Et lorsque des médias nous demandent à tel et tel endroit, est-ce qu'il existe une initiative, pour nous, c'est une façon après de renvoyer sur nos adhérents que l'on connaît mieux. Le fait d'adhérer aussi, c'est de pouvoir participer à des temps nationaux que nous organisons. On a chaque année à Paris 2 journées pour les membres qui sont les rencontres des cantines rebelles qui se déroulent en grand groupe sur lesquels on aborde des thématiques. Par exemple, là, en ce moment, on a travaillé énormément sur l'histoire de la protéine végétale depuis deux ans. Et là, on va travailler sur d'autres sujets. C'est aussi avoir accès à un annuaire qualifié. C'est-à-dire que pour tous les membres qui adhèrent aujourd'hui à un Plus Bio, il y a la possibilité de rentrer dans un dispositif où c'est un peu une bourse d'information entre ce que l'on cherche comme type d'appui de renseignement et ce que l'on a proposé en termes de compétences ou d'expérience, et de pouvoir accélérer justement les liens sur les territoires. Et surtout, si vous êtes, vous, déjà un peu locomotive dans votre coin, ça permet de peut-être de greffer des gens qui se posent des questions pas trop loin de chez vous pour pouvoir, à ce moment-là, réfléchir ensemble. Et nous, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile aussi pour organiser des temps dans, qu'on appelle les temps du Tour de France des cantines rebelles, où on se retrouve chez un adhérent et on invite les autres pour travailler quelque chose de particulier. Donc c'est toute la vertu de l'adhésion, faire connaître ce que l'on porte, soutenir les valeurs que l'on partage, et derrière, nous permettre aussi de peser, parce qu'un Plus Bio, quand on a commencé, on était 20 villes en 2013. Aujourd'hui, on en a 250. Donc je peux vous assurer que quand on fait un communiqué de presse pour réagir sur tel ou tel truc, on ne sera pas pris de la même façon si on est 500 de plus ou 10 de moins. Quoi. Voilà. Donc pour nous, c'est important aussi d'avoir un effet masse de légitimité de représentation.
Bonjour, merci beaucoup. J'ai deux questions. La ville de Lyon, comment elle se positionne par rapport à tout ce que vous avez dit ? Et deuxième question, nos enfants sont dans une école Montessori et on aimerait engager une démarche, mais on ne sait pas trop comment en parler avec le directeur de manière positive pour pas qu'il voit ça comme une intrusion, mais comme un accompagnement.
Alors, la ville de Lyon, ils ne sont pas adhérents, on les a pas encore trop vus dans nos temps, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas adhérent qu'on ne vient pas à nos temps d'échange. Il y a une journée, par exemple, la journée des victoires des cantines rebelles, on le fait à l'hôtel de ville. Si la ville de Lyon vient, on l'accueille avec grand plaisir, on lui paye le repas. Donc ils peuvent venir. On sait qu'ils sont quand même acteurs d'une qualité alimentaire dans le Grand Lyon, qu'ils ont un pourcentage de bio qui est pas inintéressant. On ne le connaît pas encore. Et d'autre part, il y a quand même des choses qui se passent dans le bio liées au fait que il y a un réseau de plateformes, les plateformes Manger Bio, ici et maintenant, qui sont en Rhône-Alpes, et qui ont justement un échange commercial avec Lyon. Donc je pense effectivement qu'il y a une part de bio qui est intéressante sur la ville de Lyon. Après, peut-être si vous en connaissez, la ville de Lyon, se mettre en relation avec un Plus Bio, ça pourrait être intéressant pour partager, puisqu'on a de grosses villes aujourd'hui. On a Grenoble qui fait aussi caisse résonance régionalement. Après, sur les histoires d'écoles et de cantines de vos écoles, ce qui est important, c'est de voir un peu comment ça se passe. Et si vous n'êtes pas allé manger, d'aller manger pour vous faire une idée de façon très concrète de ce qu'on sert régulièrement à vos enfants. C'est de récupérer les menus pour commencer à en discuter entre vous, parce que peut-être que chacun a un regard, une compétence... où vous avez dans votre réseau de connaissances peut-être une diététicienne ou un qualiticien ou quelqu'un qui a travaillé le sujet. Donc il y a des collectifs de parents aussi, j'ai oublié de vous dire, il y en a un qui est extraordinaire, enfin, que nous on aime beaucoup, qui s'appelle Pas d'usine en cuisine, qui est un collectif parisien qui depuis 4-5 ans secoue le cocotier pour faire prendre conscience aux parents et surtout aux élus que la nourriture que l'on sert, c'est plutôt de la nourriture d'usine que de cantine. Et qu'il faut remettre des priorités. Voilà. Donc ça peut faire part, et vous le retrouvez dans le bouquin téléchargeable. Et après, c'est peut-être la discussion avec votre directeur de regarder quelle est la place du repas dans le temps éducatif. Parce que c'est vraiment justement le repas peut être le moment où convergent pas mal d'activités éducatives d'une école. Et je vois, alors c'est pas Montessori, mais on a une crèche dans le réseau qui est labellisée en cuisine, parce qu'on a un partenariat avec EcoCert, et nous on est partisans que les cantines, elles se labellisent. c'est-à-dire qu'on évalue le travail qui est fait. Parce qu'il y a plein de gens qui, par exemple, la ville de, à un moment donné, pas loin de chez vous, la ville de Saint-Étienne, elle était 100% bio, mais elle l'a été 3-4 ans. Et puis après, politiquement, ça a changé, le délégataire n'est plus le même, ils ne sont plus à 100% bio. Et par exemple, les élus ont voulu savoir combien ils étaient. Alors, une des questions, c'était de se labelliser en cuisine. Et le groupe qui faisait les repas, il n'était pas en mesure de donner ces chiffres-là, donc ils ne sont pas labellisés. Donc c'est là qu'on voit l'importance un peu de l'évaluation de la transparence. Et pourquoi je vous disais, oui, il y a une crèche. L'autre jour, on a fait un petit point pour savoir le pourcentage. Et j'ai été étonné de voir que, en fait, la crèche, elle avait structuré toutes ses activités éducatives au niveau du repas. Et les enfants commençaient, dès la première heure, à fabriquer le pain avec le cuisinier, tous les jours. Ah ouais, ouais. Et c'est proche un peu de démarche, pas Montessori, mais Steiner. Les Steiner font pas mal ça en Allemagne ou en Alsace. C'est-à-dire que l'enfant, dès le plus jeune âge, est associé à des tâches du quotidien, du toucher, de la préparation, du soin culinaire. Alors, il y a de moins en moins de cuisiniers. Vous avez raison. C'est-à-dire que la tendance, notamment dans les écoles primaires et les crèches, etc., c'est de donner le repas à un traiteur ou à une concédée. Mais on a des collectifs de parents et on a des villes aujourd'hui qui font des choix de garder, voire de créer des cuisines. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire du coût du repas. Si vous dissociez, comme quand vous construisez votre maison, le jour où vous construisez votre maison, si je vous dis la maison, vous allez la construire, elle va coûter 300 000 euros. Vous n'allez pas tout amortir la première année. Vous allez payer un loyer. Vous allez payer un loyer à votre banque, grosso modo, c'est votre emprunt. Une cuisine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne l'amortit pas sur 5 ans. On l'amortit sur plusieurs années. Donc il y a le budget investissement de la cuisine, qu'on amortit sur plusieurs années, qui sont en plus dans les collectivités sur un budget investissement. Et puis il y a le fonctionnement de la cuisine, qui vont être effectivement les achats et la main-d'œuvre, qui sont deux postes différents. Et lorsque justement vous étudiez la faisabilité d'un repas, vous prenez en compte ces éléments-là. Et c'est-à-dire que vous essayez de comparer des choses comparables. Et vous apercevez qu'avoir un cuisinier, une cuisinière dans une crèche ou acheter des repas à l'extérieur peut arriver au même prix, au même coût pour la structure. Sauf que dans l'un, vous ne maîtrisez pas les achats ni, je dirais, la recette. Et de l'autre, vous avez un personnel à demeure qui cuisine selon quand même les orientations du conseil d'administration ou des parents, etc. Donc vous avez quand même intérêt à poser les bonnes questions et dites-vous que l'utopie est toujours intéressante. Si par exemple pour votre directeur ça paraît inconcevable aujourd'hui de remettre un cuisinier ou une cuisinière, c'est pas grave. Posez-lui la question en disant est-ce que vous pouvez nous montrer combien ça coûterait, et s'il vous dit non, est-ce que vous nous autorisez à aller chercher de l'information et à vous présenter quelque chose. Et c'est là que vous pouvez, par les collectifs de parents qui existent aujourd'hui, trouver les premiers résultats. Parce que vous avez des parents, aujourd'hui, c'est des dégourdis. Hein. Ils connaissent les tableurs Excel, ils savent faire le benchmarking. Du coup, ils vont chercher l'initiative, ils prennent les coûts, ils les mutualisent, et derrière, ils arrivent à faire des études de faisabilité au cas par cas.
Moi, je me pose la question par rapport aux sources d'approvisionnement en bio, parce que... Enfin, quel est le lien forcément introduire plus de bio au niveau de la cantine scolaire? Si on le fait sur une grosse agglomération, on essaye aussi de privilégier l'approvisionnement local. Donc tout ça, j'imagine qu'on n'a pas toujours les ressources suffisantes à disposition. Et comment le territoire, dans ces cas-là, les territoires sont organisés ou peuvent s'organiser pour faciliter tout ça?
Alors, vous avez vraiment raison de dire qu'on a beau avoir la volonté, derrière, ça peut coincer. Hein. Justement dans l'observatoire de la restauration collective qu'on a créé, il y a dans l'enquête il y a un pilier qui concerne la qualité, il y a un pilier qui concerne les politiques alimentaires publiques, ce dont vous parlez, c'est-à-dire comment les gens s'approvisionnent, est-ce que c'est sur le territoire, est-ce qu'ils ont prévu de soutenir le monde agricole, en termes d'urbanisme, est-ce qu'ils ont un plan local d'urbanisme avec des terres réservées pour le monde de la production. Donc tous ces éléments-là. Il faut savoir que nos élus ont des leviers justement pour permettre une relocalisation de l'alimentation par les achats publics, c'est-à-dire en étudiant par les cahiers des charges leurs besoins, par le SCOT ou les plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire de définir dans leur périmètre de compétences s'ils décident que là c'est plutôt des constructions, là c'est plutôt pour l'agriculture, là c'est plutôt l'industrie. Et quand on dit aux gens, si vous voulez manger autre chose, qu'est-ce que vous faites en tant qu'élu pour préserver les terres ? Il faut savoir qu'on on met à la poubelle énormément aujourd'hui de capacités nourricières sur nos territoires, en construisant comme on construit, en urbanisant comme on urbanise. Donc c'est de poser cette question-là. Le troisième point, après, sur le local et le bio, c'est un vrai dilemme. Est-ce qu'il vaut, et souvent les élus préfèrent le local, en se disant que ça va avoir un effet immédiat sur déjà les gens qui votent, les chasseurs et les agriculteurs, et d'autre part, ça va avoir un effet d'aubaine sur l'économie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas parce qu'on privilégiera le local que ça va continuer, puisqu'en fait, l'agriculture locale, elle est parfois suspendue à ce qu'on appelle la politique agricole commune, et qu'il suffit que la politique agricole, elle change, et qu'un jour l'Europe, elle arrête de soutenir la PAC comme elle le fait aujourd'hui, pour que s'effondre l'agriculture locale. Donc c'est d'aider le monde agricole à aller vers cette agriculture de demain, qui n'est pas l'agriculture locale conventionnelle. C'est de pousser les élus à ne pas se contenter du local, mais d'aller justement vers une organisation de l'alimentation qui ne touche pas que la cantine, c'est de réfléchir aussi au type de magasin et à l'aménagement urbain. Quand vous voyez que tout est privilégié pour les grands supermarchés et que derrière on vide les centres-villes, il y a une vraie politique justement du commerce et de la relocalisation des achats. Et c'est là que c'est l'intelligence qui doit primer. Et ça ne coûte pas forcément plus cher. On voit, par exemple, il y a la ville de Montsartou. Bon, il se trouve que je la connais assez bien parce que c'est la ville du président d'Un Plus Bio. Et que la ville de Montsartou s'est fait connaître parce qu'elle a traduit ce que beaucoup de nous aimerions voir un jour arriver. C'est qu'ils ont eu un dilemme sur leur village, qui fait quand même 12 000 habitants, hein, Montsartou. Ça touche Cannes et Grasse. Vous voyez un peu l'endroit. Donc, ça a bien voté là-bas, de ce côté-là. Ça construit beaucoup. Et il y avait une ferme agricole qui se vendait à un promoteur. Et la ville a souhaité préempter, comme elle en a le droit, c'est-à-dire elle a exercé son droit d'acquisition. Elle a acheté ça à presque de 5 millions d'euros, 4 hectares et un bâtiment. Et par contre, elle a dit ça n'ira pas à l'urbanisation, ça ira à la nourriture. Et comme on n'a pas d'agriculteurs sur notre village, on aimerait bien en avoir, mais le temps que ça s'installe, etc., ils ont décidé que ces 4 hectares serviraient à produire le maraîchage pour les cantines. Et aujourd'hui, Montsartou est autonome à 80% sur ces 4 hectares. Entre 70 et 80, sur le maraîchage, hein, uniquement. Mais par contre, le côté boomerang de cet élément-là, c'est que ils ont réfléchi aussi comment on soutient une consommation équitable. Il y a une épicerie commerce équitable, il y a une Biocoop, il y a un Satori. Enfin, sur cette zone-là, il y a d'autres magasins que les grandes surfaces. Ils se sont opposés, par exemple, à l'arrivée de IKEA, en disant IKEA qui vient, ça va nous prendre des terres, ça va nous amener des voitures, ça va créer ce qu'on ne souhaite pas, une pollution sur la ville, etc. Et ils se sont battus grâce justement à leur programme qui était de dire on veut une ville propre, sans pesticides, qui protège effectivement les concitoyens. Et vous voyez que du moment où on a un SCOT qui traduit ça, ben derrière on est fort pour éviter que s'implante n'importe quoi. Et ils ont réussi à revitaliser à un moment donné cette histoire-là. Et ils vont même, vous voyez où ça peut aller très loin. Aujourd'hui, ils ont besoin de faire une plateforme modale pour des déplacements doux à partir de la gare. Et plutôt que de confier le parking à des privés type Vinci, Eiffage, etc., ils sont en train de constituer une dynamique un peu citoyenne où la ville, effectivement, va être partie prenante, mais ils ne donnent pas aux privés pour maîtriser aussi les places de parking qui soient gratuites, etc., et qui permettent justement tous les déplacements doux à partir du parking. Donc c'est une vision un peu de prospective que pour s'alimenter, il faut effectivement une diversité de magasins et d'offres possibles.
Peut-être, si je peux me permettre, pour compléter un peu sur l'approvisionnement en Rhône-Alpes, on a eu la chance d'une région un peu pionnière dans les années 2005-2015. Et l'agriculture bio s'est développée fortement, ce qui a permis aux agriculteurs bio de s'organiser, et Stéphane en a dit un mot, de créer des plateformes. Il y a une plateforme qui s'appelle BioApro, qui est à Brigné, en banlieue de Lyon, qui regroupe une centaine d'agriculteurs bio du Rhône et qui livre les cantines de Lyon qui en ont besoin, quoi. Et c'est une plateforme qui est partie d'un emploi et qui, à l'heure actuelle, a 10 ans, une dizaine d'emplois. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'explosion. Il y a la même chose en Isère avec Manger Bio Isère. Voilà. On a la chance d'être sur cette région, d'avoir une agriculture bio assez développée et structurée, surtout. Mais maintenant, depuis quelques années, on a la concurrence du local. Alors autant, c'est vrai que de mettre du local dans les cantines, ça peut être intéressant. Sauf que quand on met une pomme à 30 pesticides, à 30 traitements chimiques dans les cantines,
ça, c'est limite.
Elle est locale, mais voilà, c'est un peu...
Merci, je veux bien apporter mon témoignage. Je travaille dans une école, je suis cuisinière pédagogique, dans une école à pédagogie différenciée sur Lyon. Ça fait un peu plus de 20 ans que je nourris des enfants de 3 ans, sans enfants de 3 ans à 10 ans. Et je travaille entre autres avec cette plateforme bio depuis leur création, je les ai soutenus. J'ai commencé avec vos recettes parce que je ne trouvais rien dans la région. Et comme je voulais mettre peu à peu en place bio, et c'est ce que je veux dire aux parents, c'est vraiment vous qui avez pour moi ce pouvoir entre autres d'exiger et de tendre vers ça le plus possible. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent bouger et il faut le faire pour la santé de vos enfants. Et c'est pas compliqué de nourrir les enfants. Nous, les enfants, alors c'est vrai que moi je suis arrivée en pleine crise de vache folle et que les parents ils voulaient plus de viande. J'ai dit bon, on va maintenir quand même la volaille parce qu'on arrivait à en trouver un peu de qualité, ce qui est plus facile maintenant aussi. Depuis quelques années, j'ai réintégré le porc, les saucisses, parce que je ne vous cacherai pas que les enfants adorent ça. Et j'ai des saucisses bio qui viennent de l'Allier, parce que la plateforme rayonne pas que sur le Rhône. C'est Loire, Isère, c'est vraiment Rhône-Alpes. Donc pour certains produits, ils viennent d'un peu plus loin. Mais on peut vraiment trouver. Et associer aussi les enfants. Donc un enfant travaille tous les matins avec moi, à partir de la grande section jusqu'à CM2. Donc voilà, chaque matin, il y a un enfant qui vient cuisiner. Comme ça, bon, ils savent d'où viennent les carottes. Donc on est à tendance végétarienne. Je fais une fois par semaine de la viande et pas toutes les semaines parce que selon l'équilibre, un petit peu de poisson. Mais en collectivité, le poisson, c'est pas non plus simple de trouver de la qualité. Voilà. Donc c'est possible de cuisiner bio pour vos enfants.
Merci de votre témoignage. Bravo. Surtout au moment où vous avez démarré.
Juste une question. Quand on a des mairies qui sont réticentes et qui ne veulent pas entendre parler de tout ça, comment est-ce qu'on peut les y contraindre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une solution? Parce qu'à chaque fois, nous, c'est refus catégorique en disant que c'est les élus qui s'occupent de la cantine scolaire et c'est tout. Et pas de parents. Et c'est une restauration. Donc... avec une société qui fabrique dans l'Ain et qui livre tous les jours. Mais je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais en tout cas, on n'a pas le droit d'y participer.
C'est toujours délicat quand les gens ne veulent pas, et ce pas que sur la cantine en façon générale. La loi un peu pour vous maintenant qui est sortie, qui va mettre ce pourcentage de bio. Donc je vous invite vraiment à vous appuyer sur le fait que la loi, elle n'est pas contraignante, c'est-à-dire elle ne va pas sanctionner votre ville. Mais votre maire ne peut plus ignorer qu'il faut qu'il aille dans cette voie-là. Donc ça, c'est un élément qu'on n'avait pas. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous pousser à ce qu'il y ait une commission menu et qu'il n'y ait pas que la commission menu de votre école ou de la ville. Et il n'y a pas que les élus et les cuisiniers. Il y a aussi le personnel de santé, il y a aussi les parents. Alors souvent, si vous n'êtes pas organisé en collectif ou en association, FCPE ou l'autre collectif de parents, vous allez être écarté. Donc c'est peut-être là aussi de prendre la température, mais il suffit de créer des fois un collectif pour pouvoir peser dans ces commissions. Ça ne sera pas suffisant. Donc l'étape après, c'est justement de demander rendez-vous, audience à plusieurs, avec pourquoi pas une petite enquête de revendication des parents en disant ça, on n'aimerait plus trop le voir. Et justement, est-ce qu'on peut discuter de ce qui pourrait être aménagé pour nos enfants, etc. Et donc c'est vraiment régulièrement ne pas baisser les bras par rapport à ça. Et si ça ne suffit pas, ben, je pense que là, il y a un timing intéressant. C'est de repérer, donc soit vous partez au municipal la prochaine fois, soit vous repérez des gens qui partent au municipal et qui sont sensibles à ça et qui peuvent à ce moment-là remporter et en tout cas mettre le sujet des prochaines échéances électorales sur cette histoire de la cantine. Parce que grosso modo, dans les municipalités, l'année prochaine, il ne va plus rester grand-chose comme compétence. Hein. Ils vont leur rester peut-être un peu des fois la toute petite enfance, mais surtout les écoles. Tout le reste est passé aux communautés de communes ou aux agglos. Donc s'ils ne s'occupent pas de la cantine pleinement, je ne vois pas qu'est-ce qui va leur rester.
Bonjour. J'aimerais savoir si des diététiciennes ou des diététiciens sont associés aux réflexions collectives du réseau et dans quelle mesure ils ou elles sont partie prenante en fait, dans les projets.
Ah oui, les diététiciennes, nous, sont des acteurs dans notre réseau. Déjà au niveau de l'association, on travaille régulièrement avec certaines, et d'ailleurs une ici qui s'appelle Laurence Raversier, qui a d'ailleurs est citée dans l'ouvrage parce qu'elle nous a apporté sa contribution. Elle est sur Valence. Après on travaille sur les territoires avec cette profession, parce que dans les collectivités adhérentes, souvent les villes ont des diététiciennes et elles participent à nos ateliers, à nos formations. Et dans une vie antérieure à un plus bio, à l'époque où on travaillait avec Marinette à Corabio, on avait 3 diététiciens dans l'association qui étaient salariés. Donc elles ont joué un rôle fondamental autour de la nutrition. Et aujourd'hui, elles sont toujours prégnantes parce que dans les leviers, justement pour les menus alternatifs ou pour tout le travail éducatif, c'est une fonction essentielle. Donc on s'appuie beaucoup sur eux. Sur elle, parce que c'est encore très féminin.
Oui, bonjour. Juste une petite question technique. Vous pouvez nous préciser l'adresse de votre site internet ?
Oui, donc l'adresse, c'est www.unplusbio.org. C'est unplusbio.org. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire sur la lettre, télécharger. Et d'ailleurs, prochainement, on va faire un guide pour élus, la même chose que les parents. On sort en guide pour élus au mois de juin. Donc pareil, si vous voulez faire circuler.
Bonjour. Moi, je voudrais rebondir sur la question qui a été posée précédemment au niveau des appros. Quand on veut faire basculer, alors sans forcément parler des cantines de grande taille, quand on veut faire basculer et quand on a envie de pousser les villes sur les cantines scolaires, mais aussi sur les EHPAD et autres structures collectives, à passer sur du bio, ou du raisonné en local. Est-ce que vous avez des exemples qui permettent de... Parce qu'encore une fois, on peut se retrouver dans des endroits où il n'y a pas d'appro autour et aller après chercher du bio à l'autre bout de la France, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc du coup, est-ce que vous avez des exemples en France où des structures ont intégré notamment des agriculteurs ou des collectifs d'agriculteurs ou de producteurs et qui ont permis, en planifiant ça à l'avance, parce qu'on sait que la conversion bio, c'est 3 ans, qui ont permis de planifier à l'avance et du coup que l'ensemble du territoire ait pu gagner à la fois sur la qualité des menus et aussi sur la qualité à la fois de la production et des revenus des agriculteurs.
Oui, on a des exemples. Il y a l'Ours-le-Saunier qui est dans ce type de contractualisation. Il y a dans la région girondine, il y a ce type de planification, c'est-à-dire que on planifie avec le monde agricole pour pouvoir être fourni en termes de denrées. On a ça aussi au niveau de la Drôme, il y a des initiatives. Ce qu'il faut savoir, grosso modo, c'est que pour changer son approvisionnement, il faut réfléchir aujourd'hui en projets alimentaires territoriaux et plus du tout imaginer sauver sa peau avec sa seule petite structure, son EHPAD ou sa crèche, son truc. C'est-à-dire que l'effet aujourd'hui changement, c'est de se retrouver les acteurs sur un territoire, de s'entendre un minimum là où on veut aller dans la direction et de faire un effort ensemble pour faciliter la vie de tout le monde. On a par exemple la ville de Manduel, dans le Gard, qui, voulant justement plutôt du bio local et surtout quelque chose qui n'arrive pas de très loin, est allé voir un producteur et lui a dit, voilà, moi, vu ma configuration, je vais t'acheter à l'année tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et l'autre a planté en fonction de ce qu'il avait besoin. Et aujourd'hui, ce gars, il est à 50% de bio local. Et tous ses légumes sont de saison et frais. Il ne va pas ailleurs que dans un rayon de 5 km. Et il y a 5 ans, ce gars-là, il n'avait pas ce type d'approvisionnement. Sauf qu'il a commencé petit à petit, c'est-à-dire il a commencé avec le bio. Le bio venait de loin, ça lui a paru un peu paradoxal. Et à un moment donné, il a fait le pas d'aller dialoguer avec un agriculteur à côté qui se convertissait à la bio. Et il lui a dit, vu que tu n'es pas loin, moi je viendrai. Et comme ce gars-là ne peut pas le livrer tout le temps, il est en train même d'imaginer de mettre à disposition son personnel pour aller chercher le produit. C'est-à-dire que la ville de Manduel a investi sur une nouvelle machine à nettoyer. Comme il a gagné, je ne sais plus, 20% de temps sur le nettoyage, les 20% du temps du nettoyage, il va l'affecter sur la collecte des produits. Dans une ville, la camionnette, ils l'ont, elle ne coûte pas cher. De faire 3 km, ça fait balader la voiture. Il récupère le produit, voilà. Donc aujourd'hui, on ne réfléchit plus avec « tu dois me livrer à telle heure », etc. Il y a des gens qui changent de radar, de logiciel, pour faciliter la vie de l'autre. Et surtout, un truc important, c'est avoir cette alimentation. Parce que demain, là, on a beau la vouloir, s'il n'y a plus personne en face, on va creuser. Hein. Donc l'urgence, elle est aussi à soutenir ceux qui existent encore.
Peut-être juste... d'un territoire qui n'est pas très loin d'ici, puis quelques questions, enfin plein de questions, mais il y a plein de super questions qui ont déjà été posées. Donc, et ce qui me rassure aussi, c'est que toutes les questions qu'on entend, on les entend de plus en plus, j'ai l'impression. Moi, je viens du département de l'Ain. Et du coup, on se dit qu'on est à un moment où il faut qu'il y ait plein de leviers d'action, il faut qu'il y ait une demande des parents, des élus, des agriculteurs qui prennent les choses en main, etc., etc. Et je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose qui monte de plus en plus et qui, voilà, il manquerait plus que tout le monde continue à mettre un peu la pression. Et puis, voilà, dans les freins aussi, je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez, mais les collectivités locales souvent se cachent derrière les chambres d'agriculture, surtout les grosses agglos, les départements, en disant, voilà, c'est très bien. Les politiques agricoles, souvent à ces échelles-là, c'est pas les élus qui le font, c'est les chambres. On sait que ça va continuer comme ça, les élections viennent de se terminer, c'est les mêmes. Voilà. Ils sont obligés d'évoluer quand même, mais c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à aller vers le côté... voilà, dans l'Ain, il y a une plateforme qui s'appelle AgriLocal. Ils ont essayé au début en bio, ils voyaient qu'ils ne trouvaient personne, donc ils sont vite passés sur le local. Sauf qu'on voit très bien que dans l'Ain, c'est le cas, mais ailleurs, j'imagine aussi, on peut faire vraiment de la bouffe de merde, même en local. Voilà, on a les pires légumes de France, on a du porc industriel comme en Bretagne, on a des super autres produits aussi. Moi, je suis maraîcher bio, donc je ne vais pas défoncer l'agriculture dans l'Ain, mais voilà, on peut aussi faire de la merde quoi, en local. On pourrait se dire, c'est une première étape. Voilà, le fait d'abord d'essayer de financer, de mieux payer les agriculteurs en local, bah, ça permet d'avoir des revenus un peu plus importants et ils sont plus à l'aise pour engager des changements techniques vers des pratiques plus... En fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vend tellement de trucs en disant « Oh, c'est en local, c'est bien », ils ne vont pas chercher... voilà. Puis on connaît l'inertie dans les chambres d'agriculture. Heureusement qu'il y a la pression des parents, qu'il y a la pression de la société civile pour faire... Et puis des lois, surtout, pour faire évoluer les chambres et les COP et tout ça, parce que sinon, ça ne viendrait pas de même, quoi. Je suis agriculteur en périphérie d'une ville de 40 000 habitants. On a des coups de téléphone tous les jours. Les restos, les parents d'élèves de cantine, des cantines. C'est pas du tout objectif. J'ai pas de chiffres. Peut-être que ça veut rien dire. Mais dans tous les cas, on sent quand même qu'il y a une demande et qui peut pas du tout être fournie. On voit pas grand monde s'installer. Oui. Beaucoup de monde s'intéresser. Mais pas sur... Parce que pour fournir des filières, pour être clair, c'est pas en permaculture sur 1000 m² qu'on peut le faire. À Lons-le-Saunier, j'avais suivi aussi un petit peu l'affaire à l'époque. Ce qui avait coincé, c'était au niveau des légumes, parce que quand on s'installe en maraîchage, et c'est mon cas, on est souvent sur des petites surfaces, on a une demande tellement énorme en vente directe, on cherche même pas à fournir des grandes filières. Donc du coup, c'est moins rentable. Du coup, il faut des structures un petit peu plus grosses. Ce n'est pas du tout l'optique d'installation aujourd'hui. Comment, mais ça rejoint un peu les questions qui ont été portées, comment alors qu'il y a des parents qui font pression, qu'il y a des élus qui sont obligés de faire du greenwashing en disant que c'est dans la transition écologique, que les chambres, maintenant, les gens qu'ils accueillent, c'est soit des gens qui sont en vente directe, c'est plus les fils de... Enfin voilà, les grosses fermes, elles ne se reprennent plus. C'est fini ça. Comment on passe au truc d'après où on peut former des gens, où on encourage des gens à s'installer et les voilà. Comment on dit aux collectivités, arrêtez d'attendre la chambre d'agriculture, métisez-vous vous-même. Quoi. Voilà. Et puis juste sur les 20%, j'ai entendu dire que c'était 20%, mais en valeur, est-ce que c'est grave ou pas?
Est-ce que c'est...
Bah, est-ce que c'est un problème ou pas, que ça soit pas en volume et que ça soit en valeur?
Non, non. Ils ont pris la valeur parce que c'était la seule façon de pouvoir mesurer. Parce qu'en volume, ça aurait été compliqué. Tout le monde n'a pas les mêmes unités, en fait. Donc, ils l'ont pris en valeur. Moi, je partage pleinement votre analyse. Je pense que là où on s'est beaucoup trompé pendant un temps dans le monde alternatif par rapport à l'alimentation, c'est de croire que les petites installations allaient faire un chapelet, et ce chapelet allait pouvoir nourrir la population. En fait, moi, pour avoir accompagné pendant des années, j'étais pendant 10 ans conseiller technique en bio à l'époque où on n'était pas pris au sérieux, notamment par les chambres, je voyais bien que celui qui était en vente directe, qui avait fait ce choix de venir à la vente directe et la petite agriculture, n'allait jamais être un acteur de la restauration collective. Par contre, on a créé l'illusion dans le monde de la bio que ça allait pouvoir s'hybrider, ça ne s'est pas hybridé. Et effectivement, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de basculement. Ce qui peut nous aider, parce que moi, comme ça fait longtemps que je travaille, mon pessimisme aurait pu m'enterrer, donc j'essaie de regarder par rapport à cette description. C'est vrai que, les chambres, alors ce n'est pas toutes les chambres, il y a des chambres qui sont en train de changer. Celle où j'habite dans le Gard, elle a changé. Il y en a d'autres qui sont en train de changer. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont insupportables et qui amènent à changer. La deuxième façon aussi, c'est-à-dire que le manque de relève devient tellement criant, notamment dans des familles de produits comme l'élevage, qu'aujourd'hui, c'est un vrai défi de maintenir la polyculture et l'élevage. Et sur l'histoire, et on ne pourra pas se nourrir que de légumes, il y a besoin aussi de cette diversité. Et puis, il y a des endroits où il n'y a que l'élevage qui peut être en activité. Donc le véritable défi, c'est comment on amène les gens à convertir, ces agriculteurs conventionnels, à se convertir vers cette agriculture écologique qui peut être bio ou autre, mais surtout qui n'utilise pas de produits chimiques. Et là, on voit, alors moi je le vois dans le monde du viticole, notamment dans le Grand Sud, il y a un basculement. C'est-à-dire que la fertilisation, elle devient presque évidente pour beaucoup. Il y a de l'enherbement, il n'y a plus de désherbage chimique sur énormément de communes. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau de certains secteurs d'activité. On ne se nourrit pas de vignes, malheureusement. Donc, on revient à votre problématique. L'agriculture industrielle, je dirais, pour vous donner la caricature, quand j'ai démarré le métier, on réfléchissait dans le réseau, c'était, il y aura 3 types d'agriculteurs en France dans les années 2000, et c'est parce que j'ai démarré avant les années 2000. Il y aura 150 000 agrimoléculteurs, 150 000 agrinovateurs, un peu comme vous, et 400 000 angoissés. Et c'était pour vous dire la clé de répartition, c'est-à-dire les 400 000 angoissés, ils vont dépendre de ce que vous évoquez. Ils disparaissent, il n'y a pas de relève, les grosses fermes ne se reprennent pas, etc. Les 150 000 agri-novateurs, ils ne vont pas être suffisants si on ne les aide pas, parce qu'il faut vivre dans l'innovation. Et par contre, les moléculteurs, eux, ils vont vivre parce qu'ils vont fabriquer du lipide, du glucide et du protide. Ils fabriqueront plus du tout du blé, du lait. Ils fabriquent plus du tout ce produit de base. Ils fabriquent effectivement plusieurs ingrédients pour l'industrie, soit de l'agriculture, soit de la chimie. Et notre, je pense, véritable défi, c'est de redialoguer avec les chambres en disant on veut du produit, que les cuisiniers en restauration collective disent on veut du produit et plus de l'ultra transformé. Donc il y a un véritable travail aujourd'hui de changement et tout ça pour une simple raison, c'est que ça va coûter moins cher à produire, moins cher à dépolluer et moins cher à traiter en matière de santé, parce que le prochain défi alimentaire, c'est la facture en matière de santé qu'on est en train de préparer. Et celle-là, elle va devenir suffisamment forte pour commencer à corriger le tir. Voilà. Et après, il y a tout le travail de l'enseignement agricole qui devrait accélérer. Ils n'ont pas accéléré, enfin, même s'ils ont fait beaucoup de changements. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on regarde l'équation. Mais les prochaines élections municipales arrivent. On ne pourra pas bouffer que de la toiture et du supermarché. Donc, voilà, il y a une place.
Donc, on va prendre une dernière question.
Voilà, je propose la dernière question en réaction. Il y a une jeune fille, c'est très bien, qui va parler. Et puis après, si vous voulez, je prendrai un peu de temps pour signer l'ouvrage.
En tant qu'enfant, qu'est-ce que je peux faire pour que ma cantine devienne bio?
Déjà, si tu manges à ta cantine, c'est faire valoir un peu ta voix. Donc, il y a un endroit où tu peux dire les choses, c'est auprès de celui qui cuisine, c'est-à-dire d'aller voir ton cuisinier pour lui dire si tu as apprécié, qu'est-ce que tu aimerais un peu voir de nouveau dans l'assiette. Après, ça peut être, si tu es en école primaire, puis après au collège, il y a des commissions repas que tu peux demander, c'est-à-dire que, je ne sais pas, une fois par trimestre, vous vous réunissez avec l'équipe de cuisine, l'enseignant, toi, et tes copains, et tes copines, pour dire ce que vous aimeriez de trouver. Et puis après, c'est de commencer à vous informer. Donc il y a des petits ouvrages accessibles pour vous sur c'est quoi l'alimentation de qualité, c'est quoi la bio, voilà, et petit à petit construire un peu l'alimentation que tu as envie de retrouver avec tes parents, peut-être qui peuvent t'aider à faire des propositions. Voilà. Ce qui est en fait important, c'est de dire ce qu'on n'aime pas, ça vous y arrivez en général, mais après c'est d'arriver à décrire ce que vous aimeriez trouver. Et est-ce que la personne qui cuisine, elle serait d'accord pour vous le proposer, genre par exemple une fois par mois voilà. Mais c'est surtout d'avoir un dialogue avec lui et je vous assure, vous ne mesurez pas le plaisir que vous pouvez faire à un cuisinier quand vous allez le voir pour lui parler. Parce qu'en fait, les gens ne parlent plus aux cuisines. Ils crient s'ils n'aiment pas, ils jettent le truc. Mais le fait de revenir vers les gens et de dire... Tu sais, ce que tu as fait, c'était bien l'autre jour où j'ai préféré ça que ça. Ça, vous verrez, ça change beaucoup de choses dans une cuisine. En tout cas, merci pour cette question, votre écoute.